VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Crise malienne, l'Allemagne veut envoyer jusqu'à 650 soldats au Mali, a annoncé aujourd'hui la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen. Objectif, soulager la France engagée en Syrie contre le groupe djihadiste État islamique. Il s'agit d'une force de 650 soldats pour appuyer la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, et favoriser la mise en œuvre d'un accord de paix entre le gouvernement malien et les rebelles du nord du pays. Ce sera la première fois que des troupes allemandes de maintien de la paix seront déployées en Afrique. Au Burkina Faso, les électeurs se rendent aux urnes dimanche pour choisir un nouveau président. Le premier chef de l'État en plus de deux décennies, autre que Blaise Compaoré, chassé du pouvoir il y a plus d'un an. Pour le journaliste burkinabé Bourema Sigué, fondateur du quotidien Le Pays, il s'agit d'un scrutin inédit qui promet une participation record.
C'est la première fois qu'un scrutin est aussi ouvert. Et c'est la première fois que un scrutin déchaîne autant d'engouement, produit autant d'engouement et de mobilisation jusque dans les confins du territoire. Je pense que si Blaise Compaoré était là, il n'y aurait pas eu autant d'engouement, autant de mobilisation, parce que certains se diraient tout simplement que l'élection est déjà pliée et que ça ne sert à rien de se mobiliser.
Le journaliste Bourema Sigué au micro de notre envoyé spécial au Burkina, Bagassi Koura. Le spectre de la guerre du Biafra refait surface au Nigeria avec les revendications séparatistes de certains habitants du sud-est du pays. Ce sanglant conflit qui s'est achevé en 1970 avait fait, rappelons-le, près de 1 million de morts, des victimes de la famine pour la plupart. Lundi, les indépendantistes sont sortis nombreux pour exprimer leur soutien à Nnamdi Kanu, directeur de la station pirate Radio Biafra, qui comparaissait devant un tribunal d'Abuja pour terrorisme et financement du terrorisme. Le professeur Tundonu Amoso, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos, dit comprendre le sens de ce mouvement d'humeur, mais selon lui, il s'agit d'un combat d'arrière-garde.
Il y a cette impression que la région était laissée parce que justement, c'est la région qui a voté massivement pour l'ancien président. Et ils ont l'idée que maintenant, dans le partage des responsabilités, ils sont laissés pour compte. Et il y a une simple raison à cela. Et vous savez, la politique du Nigeria est tellement prise. Celui qui gagne, il prend tout, il prend les meilleurs morceaux. Selon la Constitution, il faut quand même leur laisser une part. Et voilà ce que le gouvernement a fait. Moi, je crois que de toute façon, les choses vont changer, puisque l'ancien Biafra, l'Est du Nigeria, a une part très importante à jouer, même sous l'échiquier politique aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle les gouverneurs se sont réunis pour dire, voilà, on va revendiquer cette chose, et surtout pas le Biafra. Le Biafra a vécu, et que ce n'est pas question de revenir là-dessus. Parce que voyez-vous, le Biafra est au cœur du Nigeria. Et que si jamais il faut quand même sortir le Biafra du Nigeria, c'est tout le monde qui va le faire. À commencer par les premiers intéressés.
Le professeur Tundonu Amoso, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos. 5 pays d'Afrique de l'Ouest sont convenus avec l'ONU et Interpol d'intensifier la lutte contre le trafic de la drogue. Ils ont décidé de développer des unités spécialisées dans la criminalité transnationale. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Au cours de cette réunion de haut niveau à Bissau, le représentant de l'ONU a tenu à saluer les progrès accomplis par la Guinée-Bissau, longtemps plaque tournante de la drogue d'Amérique latine à destination de l'Europe. L'élection du président José Mario Vaz l'année dernière aurait permis cette nette amélioration, ainsi que les UTC, les unités spécialisées dans la criminalité transnationale, dont est dotée la Guinée-Bissau, mais aussi le Libéria et la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire et la Guinée, pays également présents, ont été invités à se doter de ces mêmes UTC, qui, selon le délégué onusien Pierre Lapaque, permettent de mieux centraliser les informations pour lutter efficacement contre le trafic de drogue et le crime organisé.
Au Niger, le Festival international de la mode africaine, FIMA, reporté sine die par crainte d'attaques terroristes. Grand rendez-vous des créateurs africains, ce festival devait s'ouvrir justement aujourd'hui à Niamey. On écoute Alpha Di, l'organisateur du FIMA.
Moi, Alpha Di, et surtout mon gouvernement, compatis à ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. et ce qui s'est passé au Mali surtout. Cette compassion a été que je suis obligé d'accompagner mon gouvernement qui a décidé aujourd'hui de reporter le FIMA à une date ultérieure. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, à côté de chez moi au Mali, ce qui se passe aussi aujourd'hui à Difa, au Tchad, au Cameroun, en France, en Belgique, nous sommes obligés aujourd'hui de donner aussi, nous aussi, notre voix pour que la paix soit totale.
J'accepte cette volonté pour que mon peuple ne souffre pas, pour que l'Afrique ne souffre pas, pour que ce festival puisse se faire dans des conditions magnifiques, pour que tout le monde puisse en bénéficier.
Alpha dit, propos recueillis à Niamey par notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le pape François est en Nairobi au Kenya, première étape dans sa tournée en Afrique. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Uhuru Kenyatta et un chœur de chanteurs et de danseurs. Les autorités kenyanes ont déployé quelques 10 000 soldats et policiers pour assurer sa sécurité pendant cette visite où le Saint-Père devrait notamment plaider pour le dialogue interreligieux et dénoncer l'écart entre les riches et les pauvres. Après le Kenya, le pape François se rendra en Ouganda. Sa dernière étape africaine sera la Centrafrique, où un nouveau durcissement du conflit intercommunautaire est signalé à quelques jours de son arrivée. Les miliciens anti-Balaka, appuyés par d'anciens soldats de l'armée, imposent un véritable blocus aux musulmans retranchés au quartier PK5 de Bangui, qui ne peuvent sortir, selon l'AFP, pour s'approvisionner sans risquer de se faire tuer. Jean-Roger Bion.
C'est dans ce contexte de blocus permanent et explosif que le pape François est attendu ce dimanche à Bangui. Il doit notamment se rendre dans la grande mosquée du PK5, comme l'avait fait le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en 2014. Des entretiens ont lieu entre les dignitaires religieux musulmans du PK5 et l'archevêque de Bangui pour sécuriser au maximum les lieux dans l'optique de la visite du pape. Pour l'instant, les miliciens qui assiègent les musulmans n'entendent pas relâcher la pression, dressant des barricades dans les rues, ponctuellement enlevées par la MINUSCA et vite remise après le passage des véhicules de l'ONU.
Au Burundi, le gouvernement dénonce les sanctions du président Barack Obama contre de hauts responsables burundais impliqués dans la crise que traverse le pays. Les autorités à Bujumbura se disent particulièrement indignées parce qu'elles appellent une certaine campagne de médisance et de calomnie contre le Burundi. On écoute Willy Niamitwe, conseiller principal en communication du président burundais Pierre Nkurunziza.
Ces sanctions ne nous dérangent en aucun cas. Ce qui nous dérange le plus, c'est la campagne de médisance et de calomnie qui est orchestrée par certaines personnes, dont certaines se trouvent d'ailleurs dans le cabinet Obama. L'ambassadrice Samantha Power, qui continue à propager des rumeurs contre le Burundi. C'est cette campagne de médisance seule qui dérange, sinon ces sanctions ne nous affectent pas.
Willy Niamitwe, conseiller en communication du président Pierre Nkurunziza au Burundi. Et puis la Tunisie a rétabli l'état d'urgence et imposé le couvre-feu dans le Grand Tunis à la suite de l'attentat de mardi contre la sécurité présidentielle. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique qui est un nouveau coup dur pour la Tunisie après les attaques de Bordeaux et de Sousse. John Lyndon.
C'est un bus de la sécurité présidentielle qui a été touché, faisant une quinzaine de morts, tous agents de la sécurité présidentielle, et une vingtaine de blessés selon un bilan officiel mais provisoire. Dans une brève allocution télévisée, le président tunisien Bedji Kaïd Essebsi, qui a du coup annulé une visite d'État prévue à partir de ce mercredi en Suisse, a décrété un état d'urgence de 30 jours dans le pays et un couvre-feu dans le Grand Tunis. Le porte-parole de la présidence, Moès Zinaoui, a précisé à l'AFP qu'il s'agissait d'un attentat terroriste et que le couvre-feu serait en vigueur jusqu'à nouvel ordre. La Tunisie avait levé début octobre l'état d'urgence imposé quelques jours après un autre attentat qui avait fait 38 morts, tous des touristes étrangers, le 26 juin dans un hôtel en bordure de mer près de Sousse. L'attentat de ce mardi a suscité de nombreuses réactions. Le président François Hollande l'a condamné avec la plus grande fermeté. À Tunis comme à Paris, a-t-il dit, c'est le même combat pour la démocratie contre l'obscurantisme. La France est plus que jamais aux côtés de la Tunisie, de ses autorités et de ses forces de sécurité. Dans ces moments douloureux, a-t-il poursuivi. Depuis 2013, la Tunisie a été le théâtre d'au moins une quinzaine d'attentats.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.